Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bonjour mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'est au micro, c'est Lievin Bouinga. À la une de l'actualité de ce journal, Judith Souminoua Touluka, bientôt en province, agression de la RDC oblige, sa mission, mobiliser les jeunes à s'engager dans les forces armées de la RDC en vue de défendre la patrie. Mais en attendant, la première ministre a échangé avec les présidents des assemblées provinciales de Kinshasa, du Congo central, du Kwilu et du Kwango. D'autres précisions dans un instant. Crise humanitaire à Goma et Bukavu, Ocha hausse le ton, son coordonnateur dénonce de graves violations de droits humains et droit international enregistrés dans ces deux villes actuellement occupées par la rébellion. Bruno Lemarquis appelle en même temps toutes les parties à protéger les civils. Bounian Itouri accablé par des rumeurs concernant la sécurité, conséquences, stress, traumatisme, voire troubles mentaux sont décelés dans le chef de plusieurs personnes. Quel remède pour y faire face? Réponse dans ce journal avec la coordonnatrice provinciale de la santé mentale en Itouri, Dr Sephora Nyomi, est notre invitée. Mais notez d'abord cette inquiétude de la ministre d'État en charge de l'éducation nationale. Raissa Malou a en effet exprimé son indignation face à la dégradation du système éducatif dans le Nord et Sud Kivu à la suite de la guerre d'agression. La ministre a rapporté cette information hier mardi lors du briefing de presse co-animé avec son collègue de la communication et médias Patrick Mouyaya ici à Kinshasa. Elle a en outre déploré la fermeture d'au moins 2594 écoles et la sortie de plus d'un million d'enfants du circuit scolaire en cette période trouble dans ces provinces sous occupation rebelle. Écoutez la ministre de l'Éducation nationale, les propos de Raissa Malou sont recueillis par Blaise Shindani Kambala.
Nous avons plus de 2500 écoles qui sont affectées par cette guerre dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, avec 1,4 million d'élèves qui sont affectés par cette situation. Il faut savoir qu'on a des écoles qui ont été détruites suite au bombardement. On a des centaines d'écoles qui sont occupées par les groupes armés dans le nord et le sud Kivu. On a les écoles qui sont occupées par les populations déplacées. Et donc, et on a aussi eu à déplorer une école qui aurait servi de cimetière. Et on a des écoles pour lesquelles les tableaux ont été détruits, les bancs ont été également détruits servant de bois de chauffe, les portes des latrines, etc. Et donc ici, vous comprenez que cette situation de guerre met à mal le travail qui a été réalisé ces dernières années pour améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage. C'est extrêmement dur de voir une école détruite, sachant tous les efforts que l'on met pour pouvoir en construire une.
Note également que dans son briefing d'hier mardi 4 mars 2025, le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, signale que près de 80 000 hommes, femmes et enfants de la RDC ont fui vers les pays voisins, dont environ 61 000 sont arrivés au Burundi depuis janvier. Il précise encore qu'autour de Goma, environ 17 000 personnes restent dans des sites déplacés, des écoles et des églises, tandis que 414 000 personnes se déplacent depuis 4 semaines, encouragées par les autorités de facto à retourner dans leur village d'origine. Au moins 209 000 personnes de ces sites sont arrivées spontanément dans les territoires de Masisi, Nirangongo et Rutshuru, où les services de base ne sont pas équipés pour faire face à cet afflux soudain des populations. Compte tenu de l'insécurité généralisée dans ces provinces et dans les régions avoisinantes, de nombreuses autres personnes pourraient devoir franchir les frontières pour trouver protection et assistance. À ce sujet, le HCR appelle les États à enregistrer tous les demandeurs d'asile en provenance de la RDC et à leur fournir des documents. La chef du gouvernement entame une tournée nationale en province. Objectif, sonner la mobilisation générale face à l'agression rwandaise, nous l'avons dit en ouverture de ce journal. En prélude de cette tournée, Judith Souminoua a reçu lundi les présidents des assemblées provinciales de Kinshasa, du Congo central, du Kwilu et du Kwango dans son cabinet de travail. Au cours de ses déplacements dans les provinces, la première ministre appellera également les jeunes en âge de combattre à son relais dans les forces armées de la RDC pour défendre la patrie. On écoute le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Papi Montezolo, est au micro de Michel Kifindangoy.
L'itinérance de la Première ministre va concerner que la mobilisation des populations et surtout amener nos jeunes à adhérer dans l'armée afin que nous-mêmes, Congolais, puissions protéger nos terres, puissions protéger nos intérêts. En tant qu'élus, nous sommes les représentants de ce peuple-là. Et par conséquent, ce peuple-là est avec nous au quotidien et nous croyons que c'est nous qui allons mobiliser pour que ce peuple-là vienne écouter la Première ministre qui va être là pour représenter les messages du chef de l'État. Donc, dès que nous quittons ici, moi et mon collègue de Kinshasa devons déjà quitter pour le Congo central afin d'accueillir l'arrivée de la Première ministre. Et donc déjà je profite à l'occasion pour annoncer à toute notre population du Congo central, du Kwango, de Kwilu et de Maïndombe l'arrivée imminente de la Première ministre pour que nous puissions être mobilisés pour botter dehors tous les ennemis de notre pays.
C'est toujours dans cette même dynamique de mobilisation des jeunes face à la guerre de l'Est qu'une délégation de la garde républicaine se retrouve au Maniema. Sur place, elle mène une campagne de sensibilisation des jeunes à rejoindre l'armée. Plusieurs membres des structures étatiques et non étatiques ont été édifiés à cet effet à Kindu. Cette activité qui rentre dans le cadre de la campagne de recrutement des jeunes dans l'armée va se poursuivre dans tous les territoires de la province, selon les organisateurs. Tout de suite, les explications du lieutenant colonel Hussein Mbambi Robert, officier de l'état-major de la garde républicaine. Il est au micro de Florence Kizalunga.
On est là en train de sensibiliser les jeunes. Oui, l'avantage des jeunes du Maniema, c'est... Puisque le Maniema n'est pas isolé, le Maniema, c'est une partie de la République démocratique du Congo. Les jeunes du Maniema doivent intégrer l'armée en général, puisque c'est l'armée qui est le socle, qui est le pivot même du développement même. Quand les jeunes du Maniema ne sont pas dans l'armée, c'est comme s'il y a un vide là. Ils doivent être dans l'armée. Ils seront nommés dans tous les grades possibles, du soldat jusqu'au général. Alors ils vont prendre des responsabilités avec tous les Congolais possibles qui constituent nos 26 provinces. Alors ils doivent être là nécessairement puisqu'ils doivent aussi défendre l'intégrité et la souveraineté de notre pays. Pour la province du Maniema, on doit avoir un premier lot, ça doit être constitué de 300 éléments, 300 recrues. Il y a une structure qui recrute ici, nos amis des forces armées qui sont là et sont en train de recruter. Nous sommes venus derrière et donc sélectionner les éléments qui vont répondre à nos critères. Nous allons les sélectionner chez eux et puis ils vont faire la formation chez nous à Kibomango, à Kinshasa. Puis comme ça, ils seront intégrés dans notre unité, la garde républicaine. Puisque la garde républicaine, mais le nom l'indique, c'est une unité qui doit être constituée de toutes les provinces.
Du côté du Kwilu, cette fois, la commissaire provinciale de la police nationale congolaise invite les policiers à soutenir le chef de l'État et les FRDC en cette période où le pays fait face à l'agression rwandaise. Le général Angel Yangbonga a lancé ce message au cours d'une parade qu'elle a présidée lundi au quartier Trois-Rivières à Bandounouville. À cette occasion, elle a aussi appelé ses hommes à la discipline, à la vigilance et à la collaboration avec la population afin de bien la sécuriser. Les propos de général Angel Yangbonga sont choisis par Irène Mboma Luzolo.
Nos populations du quartier Trois-Rivières sont surprises ce matin de voir les policiers arriver chez elles. La discipline, c'est notre guide. Nous refusons la tracasserie sur la population. Laissons la population circuler librement et prenons la paix. Pour que notre mission soit bien accomplie, pour qu'il ait la sécurité chez nous, il faut qu'il y ait une bonne collaboration entre la police et la population. En ce moment, notre pays est en guerre. Il n'y a rien à cacher, nous sommes attaqués. D'office, la population est devenue aussi agent de renseignement et doit tout contrôler dans des quartiers. Ces jours-ci, nous disons, surveillons-nous mutuellement. Si vous remarquez un mouvement suspect ou une personne suspecte, venez les dénoncer. Comme on nous attaque, cet offert d'essayer de combattre pour défendre les pays. Mais là où se trouve un policier, en attendant l'arrivée des FARDC, le policier ne doit pas croiser les bras et attendre, il doit défendre.
Il faut défendre. Et pour cette interrogation, comment impliquer les jeunes dans la lutte contre la désinformation? Cette question était au centre d'un échange hier mardi entre la MONUSCO et les différentes couches de la jeunesse. Cette activité visait aussi à recueillir les remarques et les suggestions des participants considérés comme des leaders d'opinion au sein de leur communauté, en Ituri évidemment, en vue de renforcer la collaboration avec la MONUSCO dans le cadre de la lutte contre ce fléau. Le point avec Jean-Claude Lokidile qui a pris part part à ces échanges.
Durant plus de 2 heures, les échanges ont tourné autour des fausses rumeurs souvent propagées dans les réseaux sociaux dans le but de ternir l'image de la mission onusienne en RDC. Constance Samba Galois, journaliste à la radio Les Rébâtisseurs, estime que cette rencontre tombe à point nommé au regard du contexte sécuritaire actuel de l'Éthiopie où toutes les informations sont déversées sur les réseaux sociaux pour la consommation publique.
Les jeunes jouent un rôle très important dans tout ce qui se passe en Ituri. Ce sont eux qui balancent tout ce que nous observons dans différents médias, dans différents groupes WhatsApp, tout ça. Alors ces échanges, ces interactions ont un sens pour mettre fin à tout ce que nous observons.
Les représentants de la MONUSCO ont répondu aux questions des participants, le plus souvent des préoccupations de la population sur le travail de la mission. Josiah Obat, le chef de bureau de la MONUSCO en Éthiopie, en a profité pour donner la position de la mission par rapport à certaines de ses préoccupations.
Moi, j'ai insisté sur les questions des dialogues, les questions pour que tout le monde regarde comment il peut contribuer pour qu'on puisse restaurer l'autorité de l'État ou aussi la sécurité dans les zones et dans toutes les coins.
Ce sont près de 60 jeunes, dont 15 filles, qui ont pris part à cette rencontre qui s'est déroulée à la base de la MONUSCO à Ndoromo. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
Un autre cri face à la guerre est celui du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. Son coordonnateur en RDC dénonce de graves violations de droits humains et droits internationaux enregistrées récemment au nord et sud Kivu, précisément dans les villes de Goma et Bukavu occupées par la rébellion. Bruno Lemarquis appelle toutes les parties à protéger les civils et à respecter leurs obligations en vertu du droit international. Ronly Timbonera.
Dans un communiqué du 3 mars 2025, Bruno Lemarquis exprime sa profonde inquiétude face à la multiplicité des actes de violence ciblés contre les civils, les infrastructures médicales et éducatives et le personnel humanitaire dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Ces actes constituent non seulement des atteintes graves aux droits humains fondamentaux, mais aussi des violations du droit international humanitaire. Ces communiqués des OCHA indiquent qu'entre le 1er et le 3 mars, plusieurs centres hospitaliers de Goma ont été pris pour cible et par des acteurs armés, marquant une nouvelle escalade de violence contre les structures médicales et les personnels de santé. Ce rapport également revient sur les explosions du 27 février 2025 lors d'une manifestation publique à Bukavu, au site Kivu, qui ont fait 13 morts et des dizaines de blessés parmi les civils. En outre, plusieurs autres rapports signalent une hausse inquiétante des cas d'enlèvement des civils, y compris aux abords d'écoles et structures de santé, dans certains territoires du nord et du sud Kivu, ajoute ses communiqués de presse. Bruno Lemarquis rappelle que toute attaque visant ces structures essentielles est une violation grave du droit international humanitaire et doit cesser, souligne-t-il.
Conflit dans l'est de la RDC toujours, le Canada fait aussi entendre sa voix. Il annonce une série de sanctions contre le Rwanda en réponse à son implication dans cette guerre. À travers sa démarche, Ottawa entend dénoncer une violation flagrante de la souveraineté congolaise. Dans un communiqué conjoint rendu public lundi, la ministre des Affaires étrangères canadienne et ses homologues du développement international et de la promotion des exportations ont condamné, je cite, dans des termes les plus fermes, la progression du M23 qui a récemment pris le contrôle de plusieurs agglomérations dans l'est de la RDC. Par ailleurs, l'Allemagne décide elle aussi de suspendre ses nouveaux engagements financiers et de réexaminer actuellement sa coopération bilatérale au développement avec le Rwanda. Plus particulièrement, Berlin suspend les nouveaux engagements financiers et la coopération avec le gouvernement rwandais dans le domaine de la coopération au développement. Bien avant, le ministère des Affaires étrangères de l'Allemagne avait convoqué l'ambassadeur rwandais accrédité en Allemagne pour lui demander des explications au sujet du soutien de ce pays aux rebelles du M23.
Actualité internationale.
Énorme feu de forêt en cours au Japon. Des pompiers japonais poursuivent depuis mardi 4 mars leur combat contre les flammes du plus grave incendie que le pays insulaire de l'Asie de l'Est ait connu en 50 ans. Un sinistre ayant fait au moins une victime et entraîné l'évacuation de près de 4 000 habitants.
L'invité.
La ville de Bounia en Ituri traverse depuis quelques mois une période où les rumeurs sur la situation sécuritaire renforcées par des images parfois horribles foisonnent dans l'opinion, ce qui crée le stress, le traumatisme, voire des troubles mentaux chez certaines personnes. Comment préserver sa santé mentale dans un tel contexte? Nous en parlons dans ce journal avec Dr Sephora Niomi, coordonnatrice provinciale de la santé mentale en Ituri. Elle s'entretient ici avec Martial Kiza Biamungu. Suivez.
Docteur Sephora Niomi, bonjour.
Bonjour.
Pour commencer, c'est quoi la santé mentale?
La santé mentale, c'est un état de bien-être dans lequel une personne est à mesure de se réaliser, une personne est à mesure de réaliser des travaux productifs effectués, une personne est à mesure d'interagir avec sa communauté et de collaborer, de contribuer au développement de sa communauté. Mais aussi, c'est une capacité à surmonter les tensions normales de la vie. Parce que le problème, il y en a toujours dans la vie, les difficultés, il y en a toujours. Lorsque la personne n'est pas à mesure de les surmonter, là, on peut se dire qu'il a un problème ou bien il est à même de développer un problème de santé mentale.
Alors, nous traversons une période où les rumeurs inondent les réseaux sociaux. Les fausses informations peuvent-elles avoir des conséquences sur la santé mentale de toute personne humaine? Si oui, lesquelles par exemple?
Bien sûr que oui, les fausses informations peuvent avoir des impacts sur la vie des personnes, surtout dans notre condition, les personnes vivant dans des conditions de précarité, comme les personnes vivant dans des sites de déplacés, ils sont déjà dans des situations de déplacement où ils ont perdu tellement de biens à cause des conflits. Et lorsqu'ils apprennent qu'il y a une autre vague qui surgit, qui vient les trouver à milieu où ils étaient censés se protéger, se réfugier, là, ça peut le prédisposer à développer certains problèmes, certains mentaux. Mais aussi, les personnes qui font face à des maladies chroniques invalidantes peuvent aussi développer différents problèmes, certains mentaux. Pas seulement c'est là même les personnes vivant avec des handicaps, des enfants à situation de la rue, les personnes de différentes circonstances qui sont déjà fragiles, peuvent développer différents problèmes de santé mentale en apprenant qu'il y a une situation médiocre qui nous attend dans les jours très proches à venir.
Alors, docteur Sephora Niomi, quels sont les facteurs qui peuvent favoriser une bonne santé mentale chez une personne humaine? En d'autres termes, que devrions-nous faire ou ne pas faire pour une bonne santé mentale?
Alors, par là, moi, je vais préférer parler plutôt des facteurs qui favorisent la survenue des différents problèmes de santé mentale. Du coup, dès qu'on parle de ces facteurs, on saura si on travaille sur ces facteurs, on peut déjà préserver la santé mentale de la personne ou bien de la population. Parmi les facteurs qui favorisent les différents problèmes de santé mentale, il y a trois grands groupes. Il y a les facteurs individuels, il y a les facteurs socio-économiques, il y a aussi les facteurs sociétaux. Alors, parmi les facteurs sociétaux, on peut citer ce que nous traversons actuellement dans notre pays, plus précisément dans notre province de l'Ituri, en rapport avec la guerre, les conflits, les déplacements et ainsi de suite, mais aussi les facteurs culturels, les facteurs spirituels, les croyances sont parmi les facteurs sociétaux qui peuvent prédisposer à des problèmes de santé mentale. Parmi les facteurs socio-économiques, nous avons des dettes, des crédits, des pertes d'emploi, le chômage, tout ça, ça prédispose à différents problèmes de santé mentale, même la pauvreté. Il y a aussi des personnes très irritables qui se fâchent facilement. Alors, parmi les facteurs biologiques, nous avons aussi la prédisposition génétique. Il y a de ces gens qui sont génétiquement prédisposés à développer différents problèmes de santé mentale. Alors, si on travaille sur ces facteurs, on aurait déjà préservé la santé mentale des individus.
Alors, une dernière question. Comment faire pour faire face à tous ces fléaux, des mauvaises nouvelles, des fausses informations qui circulent dans les réseaux sociaux, même des discours de haine pour éviter des troubles mentaux?
À mon avis, ce qu'il y a à faire par rapport à ça, nous devons faire confiance tout d'abord à notre gouvernement et chercher à nous informer auprès des ressources sûres afin de faire face à des fausses rumeurs qui circulent. Parce qu'actuellement, chacun donne des informations selon lui, selon sa façon de voir les choses, selon ce que lui veut que ça soit, mais les gens ne cherchent pas à savoir la vraie information, c'est laquelle. Sur ce, nous allons inviter toute la population de la ville de Bounia, celle de l'Ituri et de notre pays, de faire confiance à notre gouvernement et de chercher à s'informer auprès des sources sûres.
Docteur Sephora Gnomi, merci.
Je vous en prie.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Merci également à Pélé Kipela Mondo, à Richard Junior Kamunga et à Mimi Kindou.